Il s'agit pour nous maintenant d'entendre donc Monsieur Amir Moezi qui va traiter de la question « Peut-on parler de solidarité en islam ?» Un examen historique et lexicologique. Cher Ali.
Merci. À mon tour, je remercie chaleureusement Alain Soupiot de m'avoir permis de participer à ce colloque passionnant et le Collège de France pour son accueil et cette formidable organisation. Comme l'a souligné fort justement Alain Supiot dans l'argumentaire de ce colloque et comme l'ont brillamment exposé ce matin nos collègues, M. Wichfels et d'autres, la solidarité dans le sens technique, par exemple, qu'elle a dans l'intitulé de la chaire d'Alain Supiot, est une notion qui plonge ses racines dans l'histoire juridique et politique de l'Occident. Il est donc normal qu'on ne trouve pas dans l'islam historique, j'entends l'islam classique et traditionnel duquel je vais parler, l'équivalent exact de cette notion dans ce sens technique assez précis qu'elle a trouvé dans son évolution occidentale. Sur le plan lexical, le terme solidarité n'a pas d'équivalent en arabe et en persan classique, pour ne parler que des deux langues majeures de l'islam. À l'époque contemporaine, l'arabe rend principalement la notion par deux ou trois mots. Tadamun, nom d'action de la sixième forme évoquant souvent la réciprocité, nouvellement forgé pour la racine damina, signifiant garantir, assurer quelque chose, ce qui signifierait littéralement se rassurer ou se protéger mutuellement. Un autre mot est ta'awun, encore une fois nom d'action de la sixième forme, celle-ci existant déjà de la racine awana ou ana, dont le sens littéral est de se prêter mutuellement secours, s'entraider. On peut également penser au sens moderne du mot takaful, toujours la sixième forme de la racine kafala, qui évoque le sens de protection, qui désigne actuellement la notion d'assurance dans le système financier islamique. Le persan contemporain utilise également les deux premiers mots d'origine arabe, mais use surtout du vocable purement persan, forgé, paraît-il, il y a quelques décennies, hambastegi, formé du préfixe ham, évoquant l'association, le lien, la réciprocité, et un des noms d'état du verbe bastan, fermer lieu. Hambastegi rendant donc dans le persan contemporain des textes politiques, juridiques et de la presse, le mot solidarité signifie donc littéralement être lié ensemble ou encore attachement mutuel. Cependant, si l'on s'en tient à quelques-unes parmi les significations principielles que contient la notion de solidarité, par exemple ce qui touche au ressort du vivre ensemble, ce qui lie entre eux, les individus partageant les mêmes intérêts dans leur vie de tous les jours, ou encore ce qui fait fondamentalement le lien social, et ce, au-delà des notions différentes de fraternité ou de communauté définies dans un cadre purement religieux ou tribal, je pense à la notion de asabiya définie au XIVe siècle par le penseur maghrébin Ibn Khaldoun. Donc si on sort de ces notions exclusivistes, alors on peut légitimement s'interroger sur les éventuels parallèles que l'on pourrait repérer dans l'islam classique. Je ne vais donc pas parler du devoir d'entraide fraternelle qui lie théoriquement les musulmans entre eux et auquel des chapitres entiers ont été consacrés dans les ouvrages de théologie, de morale ou de droit. Ce n'est pas le sujet, me semble-t-il. La solidarité, si je comprends bien l'esprit du texte d'argumentaire d'Alain Supiot à ce colloque, concerne l'être humain en général et les sociétés humaines dans leur diversité. Je vais essayer donc de voir ce que nous offre l'islam dans ce cadre. L'anthropologie coranique, comme d'ailleurs d'autres anthropologies religieuses, est inégalitaire. L'homme y est supérieur à la femme, l'homme libre supérieur à l'esclave, le musulman supérieur au non-musulman. Cependant, cette idée est nuancée par la morale coranique fondée sur ce que les ouvrages d'exégèse et d'éthique ont appelé les trois vertus cardinales, soit dans l'ordre croissant, d'abord islam, littéralement soumission à l'égard de Dieu et des directives du prophète. Cette vertu la plus basse concerne la masse des croyants et leur obéissance à l'égard de la religion littérale, de la lettre de la révélation. L'islam régit le comportement des musulmans entre eux. Vient ensuite iman, littéralement la foi. Il s'agit de la fidélité sincère d'une minorité parmi les croyants à l'égard de la lettre, mais aussi de l'esprit de la parole divine. Il marque une profondeur dans la compréhension des préceptes religieux et régit l'attitude du fidèle à l'égard d'autres fidèles, qu'il s'agisse de musulmans ou des fidèles d'autres religions, en l'occurrence ceux des autres monothéismes. Enfin, Ihsan, littéralement la bonté, la vertu la plus haute, attribut divin par excellence, vers lequel doit tendre tout croyant digne de ce nom, qualité que l'on ne peut trouver que parmi une élite d'hommes purs et qui doit régir l'attitude du vrai musulman à l'égard de toute créature en général et de tout être humain en particulier. Cette progression, islam, iman, ihsan, a été mise en parallèle par les auteurs mystiques avec d'autres triptyques, par exemple celui de sharia, la religion légale ou la loi religieuse, tariqa, le cheminement spirituel, la progression initiatique, et haqiqa, le dévoilement de la réalité, du réel, la réalisation intérieure. Ou encore le triptyque de corps, de l'âme et de l'esprit. À travers ces ensembles ternaires et leurs correspondances, on se rend aisément compte que la bonté, en relation avec le monde intérieur et l'esprit, s'appuyant sur la vérité, le réel, la bonté à l'égard de tous, a été considérée par un grand nombre parmi les penseurs de l'islam comme bien supérieure à la piété qui ne concerne que les fidèles de la religion musulmane et est liée à des notions jugées plus superficielles correspondant au corps matériel et à la loi. La centralité de la bonté comme la qualité morale la plus haute a été comparée, à juste titre me semble-t-il, par Louis Massignon et par Franz Rosenthal par exemple, à la notion de compassion dans le bouddhisme et à celle de la charité dans le christianisme. Certains collègues en ont parlé aujourd'hui. L'analyse spirituelle et psychologique de la nation a été portée au plus haut point dans la littérature mystique et morale, mais aussi dans les belles lettres, adab, comme l'a magistralement montré Georges Mactissi. Naturellement, ce sont les philosophes qui tentèrent de théoriser rationnellement la bonté. Pendant ce qu'il est maintenant convenu d'appeler l'âge d'or de la civilisation islamique, c'est-à-dire la seconde moitié du 3e siècle de l'Égypte, 9e siècle de la chrétienne, et tout le long du 4e, 10e siècle, des néoplatoniciens, aristotéliciens comme Farabi, Avicenne, et surtout ceux que le regretté Mohamed Harkoun appelait très justement les humanistes de langue arabe, Abul Hassan al-Amiri, al-Tawhidi ou Miskaweh, tous séduits par la République de Platon, essayèrent de trouver les meilleurs moyens pour appliquer de la manière la plus appropriée, c'est-à-dire en accord avec la sagesse, la bonté dans la cité sur les plans social et politique. Ce dernier, Miskaweh, de son vrai nom persan Moskouya, mort presque centenaire en 420 de l'Égypte, c'est-à-dire 1029 de l'ère chrétienne, sans doute un des plus grands penseurs de la philosophie éthique, soutient dans son Javid al-Khirad, la sagesse éternelle, la supériorité de la bonté, Ihsan donc, en persan Niki, sur la piété, pour ce qui est la relation avec ses prochains. La piété doit surtout régir le rapport du croyant à Dieu et concerne en dernier lieu le salut dans l'au-delà, alors que la bonté doit présider au rapport entre les humains et garantit la paix de la vie d'ici-bas. Il n'y a pas de vraie piété sans bonté, alors que la bonté peut se passer de la piété en s'appuyant avec sagesse sur la raison et le bon sens. Dans son Tartib al-Sa'adat, ordonnancement de différents bonheurs, se fondant sur la tradition prophétique d'inspiration biblique qui présente l'homme comme créé à l'image de Dieu, Miskaweh, tout comme d'autres humanistes de son temps, place l'être humain, divin et en même temps fragile, au centre de sa pensée et comme la mesure de tout, l'être humain au-delà de ses appartenances extérieures, sa race, sa langue, sa religion, etc. À travers la pensée des sages humanistes que nous pouvons voir poindre une certaine idée qui se rapprocherait de la notion de solidarité. Cependant, malgré leur influence indéniable dans l'histoire de la pensée et donc dans l'histoire tout court, les philosophes demeurent une élite intellectuelle dont le poids n'a pu peser sur certaines couches des diverses sociétés de l'islam que de manière extrêmement lente et progressive. En revanche, il me semble que l'on pourrait déceler les conditions de réalisation, les idées et les pratiques d'une certaine solidarité ayant concrètement existé parmi les gens de manière particulièrement efficiente et considérablement durable dans deux importantes institutions historiques. D'abord, le mouvement populaire de la photovoie, d'ordre spirituel et mystique. Ensuite, la réglementation juridique de la zimma, d'ordre social et politique. Premièrement, la photovoie est un mouvement, un courant spirituel fondé sur un ensemble de codes moraux que l'on pourrait qualifier de chevaleresques et qui marqua du XIIIe au début du XXe siècle, de notre ère, les corporations de métiers dans pratiquement tout l'islam oriental. Le terme vient de fata, pluriel fitian, littéralement jeune homme, qualité de l'homme, mélange de courage, de dignité, de virilité, de magnanimité, d'altruisme, de pureté morale et de sagesse pratique. Henri Corbin a rendu joliment la photo par « juvénilité », ce qui est littéralement exact, mais il serait plus parlant de dire « qualité chevaleresque ». D'ailleurs, Corbin lui-même a souvent traduit le fata arabe, « javan mard » en persan, par « compagnon chevalier ». Du IIe siècle de l'Égypte, 8e, où il aurait été créé jusqu'au 7e, 13e siècle, le terme a pris des significations nombreuses et variées, parfois fort contradictoires selon les époques et les endroits. Mais ce qui nous intéresse, c'est son usage le plus courant et le plus connu, du Moyen Âge jusqu'au temps moderne, qui désigne un certain type d'organisation ou de corporation professionnelle à travers toutes les sociétés urbaines de l'Orient musulman, de l'Anatolie et de l'Empire ottoman, à l'Inde, en passant par l'Iran, le Caucase et l'Asie centrale. Selon les études déjà anciennes de Stig-Wekender, comme celle plus récente de Mohsen Zakeri, le mouvement serait d'origine iranienne et tirerait ses racines des sociétés secrètes d'époque sassanide formées d'ascètes guerriers qui s'étaient donné pour devoir, je cite un texte Pélévi mentionné par Zakeri, s'étaient donné pour devoir la défense du faible, de la veuve et de l'orphelin. Dans le mouvement de la Foutouva dont nous parlons, le côté guerrier n'est que symbolique. Le combat est dirigé contre soi, contre l'ego, mais l'objectif demeure le service, l'altruisme, la générosité à l'égard des autres, et ce, dans un cheminement moral et spirituel. Comparable aux anciens compagnons d'Europe, les adeptes de la Fatwa sont organisés en petites collectivités selon leur métier, et donc dans des milieux des commerçants et d'artisans provenant des milieux sociaux, ethniques et religieux différents, s'appuyant sur des idéaux fraternels de solidarité et de camaraderie, et sur des qualités de type chevaleresque. Il s'agit de corporations de métiers ou même de compagnonnage interprofessionnel, selon le mot de Claude Cahen. Le but est de réaliser la vie la plus paisible et moralement la plus pure possible à travers ce qui, selon eux, régit de plus près le vivre ensemble, c'est-à-dire le commerce. Ici intervient, bien entendu, le droit musulman, dont la partie consacrée aux transactions commerciales est particulièrement développée. Mais dans la photovoie, le droit est totalement subordonné à l'éthique, dont le centre de gravité est encore une fois la fameuse notion de bonté. L'organisation de la Foutawa en tant que corporation de métier semble remonter au califat chiite ismaélien des Fatimides, les fondateurs du Caire, au 4e, c'est-à-dire 10e siècle, souverains amateurs de philosophie dont le goût pour le monde du travail et du commerce est bien connu. C'est sans doute la raison pour laquelle il y a toujours eu une forte sympathie pour le chiisme parmi les adeptes de la Foutawa, les jeunes compagnons chevaliers, même sunnites, se présentant comme les guerriers de la bonté. L'adage par excellence du mouvement, une sorte de slogan caractérisant la Foutawa en tout temps et tout lieu, est, en arabe, « La fata illa Ali, la saifa illa Zulfaqar », pas de chevalier hormis Ali, c'est-à-dire le premier imam chiite, pas de sabre hormis Zulfaqar, le fameux sabre de Ali. Ali est presque toujours présenté comme le fondateur de la Foutawa. L'origine iranienne probable du mouvement et ses fondements chiites semblent être illustrés par l'importance d'une figure emblématique, symbole majeur des attributs chevaleresques et plus tard saint patron des barbiers, Salman le Perse, compagnon iranien du prophète et fidèle initié de Ali. Cependant, ceux qui dotèrent le mouvement d'un caractère universel dans tout l'Orient furent le calife Abbaside, An-Nasser, mort en 1223, et son conseiller, le grand maître soufi, sunnite d'origine iranienne, Omar Sohrawardi, mort en 1234, éponyme d'un des plus grands ordres mystiques musulmans. Très proche du soufisme depuis déjà 2 ou 3 siècles, la Foutawa prit alors quasiment la forme d'une immense confrérie mystique grâce aux efforts de Sohrawardi et de son puissant protecteur, avec ses chaînes de transmetteurs, remontant presque toujours à Salman le Perse et à Ali, sa hiérarchie spirituelle, ses tenues vestimentaires selon les métiers, ses rites initiatiques sophistiqués et sa littérature. En effet, c'est surtout à partir de ce XIIIe siècle que se développe considérablement la rédaction de toutes sortes de livres de la Foutawa, Foutawat Namé, surtout en persan, comme ce titre générique le montre, langue littéraire par excellence de l'Orient musulman, mais aussi en arabe et en turc. D'ailleurs, Sohrawardi lui-même est l'auteur de plusieurs parmi les plus connus de ses traités en persan. Citons encore le Kitab al-Futuwa en arabe, d'Ibn al-Mi'mar al-Hanbali, au XIIIe siècle, l'écrit sans doute le plus concret de ce genre littéraire, le Kitab al-Futuwa en arabe de Safiyyeddin Ardabili au XIVe siècle, l'ancêtre soufi des souverains safavides d'Iran, ou encore la Risale Futuwati en persan du grand saint Sayyid Hamedani, surnommé le second Ali, le premier étant bien sûr le premier imam des chiites, mort en 1384, où il souligne l'équivalence entre la Futuwa, un soufisme fortement teinté de chiisme, et l'institution de la Ukhuwa, c'est-à-dire fraternité, issue de la Futuwa, est nouvellement élaborée dans les corporations de métiers dans le monde musulman turcophone, en Anatolie notamment, et présente jusqu'au Turkestan chinois. Enfin, le Futuwatname Kebir, en turc, de Sayyid Alauddin Husseini, écrit en 1524, et qui a eu une immense et durable influence, surtout dans les provinces européennes de l'Empire ottoman, notamment en Bosnie et en Albanie, et parmi les adeptes non musulmans de la Futuwa. Par ailleurs, nous avons des traités spécifiques écrits pour les pratiquants de tel ou tel métier, les tisserands, les teinturiers, les forgerons, les tanneurs, les menuisiers, etc. Telle qu'elle se présente dans ces textes théoriques, mais aussi en pratique, la Futuwa est transreligieuse. Son objectif, on l'a dit, est de purifier l'homme par des vertus chevaleresques, afin de rendre paisible et prospère le commerce, et de la pacifier la société, et réunir les meilleures conditions pour une vie bonne. Deux petits textes illustrent parfaitement cet état d'esprit. On les retrouve presque toujours comme un leitmotiv dans les écrits de la Futuwa. Selon les témoignages des historiens et les récits de voyages, ces textes écrits dans de belles calligraphies ornaient les boutiques des commerçants et les ateliers des artisans membres de la Futuwa. Le premier est une phrase de Ali, encore lui, tirée de sa célèbre lettre à son ami Malik al-Ashtar, où il dit « Pratique la bonté à l'égard de tous les hommes, car ils sont soit tes frères en religion, en tant que musulmans, soit tes semblables en création, en tant que créature de Dieu. » Le second texte est le fameux poème du grand poète persan Sa'di de Shiraz, mort en 1291, poème qui orne aujourd'hui l'entrée principale du bâtiment des Nations Unies à New York. Je cite « Les descendants d'Adam sont les organes d'un même corps, car ils ont été créés d'une même et unique substance. Lorsque le destin fait souffrir un des organes, les autres ne peuvent rester indemnes. Toi qui es insensible à la souffrance d'autrui, tu ne mérites pas d'être appelé humain. » L'esprit chevaleresque humaniste, mais aussi certainement un pragmatisme aigu, poussait les membres de la Futuwa, adeptes d'une morale spirituelle mais aussi commerçants et artisans, de traiter avec la même bonté leurs collègues et confrères musulmans et non musulmans. C'est sans doute dans un tel contexte que l'on peut expliquer la coexistence pacifique, la fraternité corporative et la collaboration étroite soulignée par de nombreuses sources entre commerçants musulmans, chrétiens et juifs dans l'Espagne musulmane, entre musulmans et grecs orthodoxes et vénitiens catholiques dans l'Empire ottoman, entre musulmans chiites et arméniens chrétiens à Isfahan, capitale de l'Empire safavide. Et cet état des choses continua pendant près de sept siècles, jusqu'aux confins des 19e et 20e siècles, où, à cause de l'afflux des marchandises européennes et à l'extension du commerce de type occidental, cette organisation corporative tomba peu à peu en désuétude et céda progressivement la place aux chambres des métiers de type européen. La seconde institution est la zimma, terme qui désigne une sorte de contrat par lequel la communauté musulmane accorde protection et hospitalité aux membres des autres religions à condition que ceux-ci reconnaissent et respectent la domination de l'islam. Les premières bases de cette réglementation semblent remonter à l'époque du calife Omeyyade Abdelmalek, qui régna de 65 à 86 de l'Égypte, c'est-à-dire 685 à 705 de l'ère chrétienne. Théoriquement, les immis ou les ahl zimma, c'est-à-dire les bénéficiaires de la zimma, les protégés, c'est le sens littéral, les protégés sont les fidèles des autres monothéismes. En l'occurrence, le judaïsme, le christianisme et le zoroastrisme, mais dans les faits, le pragmatisme aidant, d'autres religions ont été intégrées dans ce cadre juridique, surtout après l'arrivée des musulmans en Asie centrale et en Inde. Ainsi, les bouddhistes, les hindouistes, voire selon certaines sources, les idolâtres de l'Inde, tous inconnus du Coran, ont été considérés comme des immis par les conquérants. Je dis pragmatisme car dans les faits, ce contrat garantissait souvent la paix civile dans les pays conquis où le nombre des non-musulmans dominés était pendant des siècles infiniment supérieur aux musulmans dominants Et puis ce contrat contraignait les non-musulmans à payer une sorte de taxe de capitation appelée la jizya, ressource financière importante pour les gouverneurs des pays conquis et le pouvoir central. Certains spécialistes modernes de l'islam ont dénoncé le caractère discriminatoire et humiliant de cette règle juridique pour les non-musulmans. On est même allé jusqu'à forger le terme de zimmitude, qui évoque immanquablement celui de servitude. La dénonciation est manifestement anachronique et loin de l'objectivité historique, car des réglementations équivalentes, voire plus discriminatoires, se rencontrent dans toutes les sociétés de cette époque. Que l'on se borne ici à la situation de la minorité juive dans l'Empire byzantin ou sous le règne de Saint-Louis, ou encore la condition des juifs et des musulmans après la Reconquista espagnole post-1492. Ce genre de pratique est donc en conformité avec l'usage général de toutes les sociétés traditionnelles au sujet des fidèles des confessions non dominantes. Examinons donc les choses avec sérénité. Les devoirs et les droits des protégés ont varié selon les époques et les endroits, et puis on trouve des divergences dans les écrits juridiques sur le sujet, surtout à l'époque ancienne. Malgré cela, il y a quelques données plus ou moins constantes. Les protégés doivent reconnaître la domination de l'islam, on l'a dit, attitude illustrée par le paiement de la taxe de capitation. Il leur est interdit d'injurier l'islam ou de convertir un musulman sous peine de mort. Alors que le musulman peut épouser une femme zimmi, un zimmi n'a pas le droit d'épouser une musulmane. L'enfant issu d'un mariage mixte est musulman. Un protégé ne peut posséder d'esclaves musulmans, alors que l'inverse est autorisé. Le prix du sang, dia, d'un zimmi est inférieur à celui d'un musulman, etc. À certaines époques, ces conditions sont devenues plus dures, par exemple sous les règnes des califes abbassides, Omar ibn Abdelaziz ou Harun al-Rashid, ou encore sous le fatimide illuminé, al-Hakim, où une politique ouvertement hostile et discriminatoire à l'égard des immis fut mise en place. Port des signes vestimentaires, interdiction des beaux tissus et des montures aristocratiques, interdiction de construction de nouveaux édifices de culte, humiliation publique, etc. Mais on sait que ces mesures exceptionnelles, appliquées seulement dans les grands centres urbains, n'ont pas été respectées durablement. On sait également qu'elles avaient des raisons purement politiques, internes ou externes, et non religieuses. D'une manière générale, la pratique courante reste largement en deçà des prescriptions des juristes rigoristes et des souverains soucieux de prouver à la population leur piétisme. Dans l'ensemble, de ce qui ressort de plusieurs catégories de sources, il s'avère que la condition des immis, bien qu'instable, il est vrai, a été dans l'essentiel satisfaisante pendant tout le Moyen Âge, et ce aussi bien en Occident qu'en Orient musulman. En effet, les règles de la dhimma accordent à ses bénéficiaires le droit d'être accueillis et protégés par les musulmans. S'il est évidemment anachronique de parler de liberté de conscience, toutefois les protégés ont le droit de garder et de pratiquer leur religion. La protection de leurs édifices de culte est garantie par le pouvoir musulman. Ils gardent leurs chefs politiques et religieux. Les juifs ont ainsi vécu sous le gouvernement de leur exilarque, et les chrétiens de diverses églises sous celui de leurs catholicoi et patriarches respectifs. Là où l'on s'attendrait théoriquement à voir les protégés bannis, c'est le pouvoir et le gouvernement. En réalité, il n'en est rien. Que l'on pense aux postes administratifs et politiques de premier ordre d'importance des Nestoriens en Irak et en Iran et des Coptes en Égypte pendant les siècles qui suivirent les grandes conquêtes, du rôle de nombreux personnages influents juifs et chrétiens en Égypte fatimide, dont l'extrême tolérance a été admirablement étudiée par Shlomo Goitein à partir des documents provenant de la Géniza du Caire. Et puis même chose en Espagne musulmane jusqu'au XIIe siècle, également étudiée entre autres par Goitein. C'est surtout dans le domaine commercial, encore une fois, que le coude à coude quotidien de la vie entre musulmans et protégés se rapproche le plus de ce qu'on pourrait appeler une forme de solidarité. S'il pouvait y avoir une tendance naturelle au groupement des habitants des villes par confession, il n'y a pas eu de quartier précis et surtout pas de quartier obligatoire pour les immis. De même, s'il y a trace de quelques spécialisations professionnelles, par exemple les métiers de la teinturerie aux mains des juifs, c'est en règle générale le mélange des confessions dans tous les métiers et la coopération étroite entre musulmans et protégés qui caractérise fortement l'économie des temps classiques de l'islam. À partir des XIIe et XIIIe siècles de notre ère, plusieurs éléments historiques viennent perturber durablement cet équilibre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les croisades n'ont pas eu d'effet notable sur la condition des immis, probablement parce que les chrétiens d'Orient n'étaient pas de rite latin, et dans l'ensemble, ils restèrent fidèles à leur maître musulman. Le premier facteur important, c'est que c'est à partir de cette époque que les protégés passent de l'état de majorité à celui de minorité. Le second facteur est les conséquences des invasions turco-mongoles et le prolongement de l'état de guerre larvé contre les Francs. L'invasion mongole, les massacres de Tamerlan, le zèle des Mamelouks, où pourtant l'influence de la Foutouva ne put neutraliser ni celle des docteurs rigoristes comme le célèbre Ibn Taymiyyah, ni les excès populaires organisés par des extrémistes, ou encore les conflits entre Turcomans, ont fait qu'entre le XIIIe et le XVe siècle, les chrétiens d'Orient connurent par intermittence un âge sombre, perçu qu'ils étaient soit comme les complices des conquérants centra-asiatiques, soit comme la cinquième colonne des pouvoirs chrétiens occidentaux. Même chose en Occident musulman, en Espagne et au Maghreb, où les pouvoirs almoravides et surtout almohades mirent sur pied une politique de répression et de discrimination particulièrement violente contre leurs sujets chrétiens et dans une moindre mesure juifs, soupçonnés là aussi de complicité avec les Espagnols catholiques des royaumes du Nord, désormais visant la Reconquista. Les choses évoluent encore une fois vers l'équilibre en Orient uniquement à l'orée des temps modernes. Après les expulsions violentes des Juifs et des musulmans d'Espagne et des guerres des religions en Occident, l'Empire ottoman nouvellement constitué accueille un très grand nombre de zimmi et offre bientôt le spectacle d'une vraie symbiose entre musulmans et protégés, surtout encore une fois dans le domaine économique. Dans un moindre degré, on assiste au même phénomène dans l'Empire iranien des Safavides et l'Empire moghol de l'Inde. Juifs, arméniens, grecs orthodoxes, assyro-chaldéens, zoroastriens, parsis, y trouvent refuge et accèdent à des situations de premier plan, d'autant plus que les lettrés parmi ces immis ont une bonne connaissance d'une ou de plusieurs langues occidentales et servent d'ambassadeurs dans les grandes transactions politiques et surtout commerciales entre ces trois empires et les pays d'Europe. Les transformations et dégradations ultérieures relèvent de l'histoire politique des mouvements nationaux en pays musulmans et de la transformation de la notion même d'État qui va progressivement vider l'institution de la zimma de son contenu traditionnel. Que conclure ? Comme je le disais au début de mon intervention, si on donne au mot solidarité son sens technique issu de l'histoire occidentale depuis le droit romain, nous n'en trouvons naturellement pas d'équivalent dans l'islam classique. Mais si on prend la notion de solidarité dans le sens large et lâche, de facteur essentiel de consolidation des liens sociaux et du vivre ensemble, au-delà de la fraternité communautaire et religieuse, alors il me semble qu'il est possible d'en trouver les conditions de réalisation et puis des traces évidentes à travers deux institutions distinctes mais souvent associées dans la pratique, surtout la pratique économique et commerciale. La Foutouwa, volet moral, spirituel et initiatique de la notion, et la Zimma, volet juridique et politique. Comme je viens de le dire, les deux volets peuvent se combiner comme ce fut le cas chez les Turcs ottomans et dans l'Iran safavide. Le fait semble ainsi aller dans le sens de l'idée exprimée par le grand islamologue Gustav von Grunebaum dans sa leçon inaugurale à l'Université de Californie en 1949. Si l'islam a pu devenir la religion d'une culture si riche de diversité et d'une civilisation si prospère englobant des peuples si différents, et ce pendant de longs siècles, et sur une immense partie du monde connu, c'est probablement parce qu'il fut, entre autres, la religion des commerçants, et a pu, au cours de son histoire, moraliser, voire spiritualiser son univers économique. Je vous remercie.